Audiolib présente
Rien ne s'oppose à la nuit
de Delphine de Vigan. Lu par Marianne Épin.
À Margot. Un jour, je peignais. Le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté. Une lumière picturale dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. Pierre Soulages. Première partie. Ma mère était bleue, d'un bleu pâle mêlé de cendres. Les mains étrangement plus foncées que le visage, lorsque je l'ai trouvée chez elle ce matin de janvier. Les mains comme tachées d'encre au pli des phalanges. Ma mère était morte depuis plusieurs jours. J'ignore combien de secondes, voire de minutes, il me fallut pour le comprendre. Malgré l'évidence de la situation, ma mère était allongée sur son lit et ne répondait à aucune sollicitation. Un temps très long, maladroit et fébrile, jusqu'au cri qui est sorti de mes poumons comme après plusieurs minutes d'apnée. Encore aujourd'hui, plus de 2 ans après, cela reste pour moi un mystère. Par quel mécanisme mon cerveau a-t-il pu tenir si loin de lui la perception du corps de ma mère et surtout de son odeur ? Comment a-t-il pu mettre tant de temps à accepter l'information qui gisait devant lui ? Ce n'est pas la seule interrogation que sa mort m'a laissée. 4 ou 5 semaines plus tard, dans un état d'hébétude d'une rare opacité, je recevais le prix des libraires pour un roman dont l'un des personnages était une mère murée et retirée de tout, qui, après des années de silence, retrouvait l'usage des mots. À la mienne, j'avais donné le livre avant sa parution, fière sans doute, d'être venue à bout d'un nouveau roman, consciente cependant, même à travers la fiction, d'agiter le couteau dans la plaie. Je n'ai aucun souvenir du lieu où se passait la remise du prix, ni de la cérémonie elle-même. La terreur, je crois, ne m'avait pas quittée. Je souriais pourtant. Quelques années plus tôt, au père de mes enfants, qui me reprochait d'être dans la fuite en avant, il évoquait cette capacité exaspérante à faire bonne figure en toutes circonstances, j'avais répondu pompeusement que j'étais dans la vie. Je souriais aussi au dîner qui fut donné en mon honneur, ma seule préoccupation étant de tenir debout, puis assise, de ne pas m'effondrer d'un seul coup dans mon assiette, dans un mouvement de plongeon similaire à celui qui m'avait projeté, à l'âge de 12 ans, la tête la première dans une piscine vide. Je me souviens de la dimension physique, voire athlétique, que revêtait cet effort. Tenir, oui, même si personne n'était dupe. Il me semblait qu'il valait mieux contenir le chagrin, le ficeler, l'étouffer, le faire taire, jusqu'au moment où enfin je me retrouverais seule, plutôt que me laisser aller à ce qui n'aurait pu être qu'un long hurlement, ou pire encore, un râle. Ému sans aucun doute plaqué au sol. Au cours des derniers mois, les événements qui me concernaient s'étaient singulièrement précipités et la vie, cette fois encore, fixait la barre trop haut. Ainsi, me semblait-il, le temps de la chute, n'y avait-il rien d'autre à faire que bonne figure, ou bien faire face, quitte à faire semblant. Et pour cela, je sais depuis longtemps qu'il est préférable de se tenir debout que couché,